Le conférencier de ce soir, M. Pierre-Louis Lion, est né en 1956. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il est docteur en sciences. Il est actuellement consultant à l'aérospatiale depuis 1996, consultant à la Caisse autonome de refinancement depuis 1995, professeur à l'Université Paris 9 Dauphine et également professeur à l'École polytechnique. Il est président de la commission d'éducation de l'Institut national de la recherche en informatique automatique, l'INRIA, et il est membre de l'Institut. En 1994, il a reçu la médaille Fields. Monsieur, c'est à vous pour 50 minutes de conférence.
C'est gentil d'applaudir au début et c'est peut-être raisonnable vu l'exercice délicat auquel je vais essayer de me livrer ce soir. J'espère que je ne vais pas tout casser aussi, je suis de naturel remuant, donc vous me prévenez si je suis en train de tout détruire. J'ai légèrement modifié le titre, première surprise, donc analyse, modèle et simulation, ça ressemble beaucoup au titre qui était donné, et effectivement la partie de mathématiques dont je m'occupe s'appelle l'analyse, et toutes les branches de l'analyse interviennent en fait dans les questions que l'on va aborder aujourd'hui. Et c'est vrai que cela fait quelque temps que j'ai observé que lorsqu'on mettait côte à côte ces trois mots, il y avait un parallèle saisissant avec quelque chose d'autre. Et les simulations, après tout, de plus en plus, il s'agit de parler de bandes vidéo. Et effectivement, j'aurais dû vous présenter une bande vidéo à la fin de l'exposé, mais il y a eu un petit problème technique qui font que mes illustrations seront simplement à base de transparent. Mais je l'ai quand même amené pour témoigner que dans un contexte technique autre, j'aurais pu effectivement vous montrer une bande vidéo illustrant bien mon propos. Les modèles. Bon, je n'ai pas du tout envie de me livrer à des définitions. Je suis absolument bien que mathématicien, je n'aime pas trop les définitions trop précises, trop rigoureuses. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que les mensonges, les modèles ne sont pas vraiment des vérités, et en forçant un peu le trait, ce sont des mensonges. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais le titre original était en anglais. Et alors, évidemment, si on accepte ces deux derniers termes, évidemment, l'analyse, qu'est-ce que ça devient? Pardonnez-moi, c'est le dernier mot de ce film qui a eu la Palme d'Or il y a quelques années. Vous aurez tous compris, tous les goûts étant dans la nature, que je suis analyste, et que j'aime ça, bien entendu. Quoi qu'il en soit, le plan de l'exposé sera de déjà planter le décor dans une introduction et exprimer les objectifs que je voudrais atteindre dans cet exposé. Et ensuite, tout de suite, avant de démarrer avec des équations ou des objets plus ou moins complexes, je voudrais vous donner des exemples de problèmes et de simulations. Qu'est-ce que c'est? Que sont des simulations numériques? Et qu'essaie-t-on de faire lorsqu'on fait des simulations numériques? Quelques exemples, quelques illustrations. Le point commun du point de vue de l'outil mathématique qu'il y aura derrière toutes les illustrations que je choisirai sont des modèles qui sont basés sur l'objet mathématique que l'on appelle des EDP, des équations aux dérivées partielles. Des équations mathématiques, il y a deux mots supplémentaires, dérivées partielles, j'expliquerai rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, le point que je voudrais aborder concerne l'interaction de l'analyse et des applications aux autres sciences ou des applications à des problèmes industriels. Et puis, bien que je suis peut-être pas assez vieux pour me livrer à cet exercice de prospective, ou au contraire trop vieux pour me livrer à cet exercice de prospective, j'aimerais indiquer en tout cas quelques tendances que l'on peut percevoir dans ce domaine de modélisation et de simulation et d'interaction avec les mathématiques. Enfin, vous voyez un avertissement tout au bas de ce transparent. Ne sachant pas très bien à quoi m'attendre, j'ai prévu un exposé qui ne sera pas technique du tout. Donc très très peu de mathématiques, il y aura quelques symboles mathématiques, mais vraiment le moins possible, de façon à donner une chance, en tout cas c'est ce que j'espère, donner une chance de compréhension à, je dirais, toute personne ayant eu une éducation mathématique et scientifique, j'insiste sur ce deuxième mot scientifique, raisonnable. Alors donc les 95% restants, je ne sais pas très bien comment les qualifier, du blabla peut-être, mais en tout cas certainement des considérations un peu générales. Mon objectif, déjà de répondre à la question. On parle beaucoup, tout le monde parle de simulation numérique, ça, on en a même beaucoup parlé à un moment donné à propos de l'armement nucléaire, on parlait sans arrêt de la simulation, sous-entendu c'était des simulations numériques, et donc qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est faire et les maths là-dedans. Donc c'est de répondre à ces questions qui constituent mon premier objectif. Et donc précisément, comme je venais de l'indiquer, à quoi servent les simulations ? Je rajoute tout de suite ce qui sera vraiment le cœur de mon sujet, des simulations d'équations aux dérivées partielles non linéaires. Un peu plus précisément, il s'agit de résoudre numériquement. Je reviendrai dessus pour l'instant, il est... Je sais bien que ceci reste extrêmement vague, mais déjà, pour qu'on ait un cadre un peu général, il s'agit de résoudre numériquement des modèles, qu'ils soient d'origine physique, chimique, biologique, économique et financière, des sciences de l'ingénieur, vous verrez des illustrations à un certain nombre de ces disciplines. Également, je voudrais indiquer des évolutions de la modélisation. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour éviter de toujours parler de ce qui s'est passé il y a 50 ans ? Et enfin, de montrer des interactions fortes avec les mathématiques, aussi bien sur des aspects théoriques de compréhension des modèles, mais également sur les aspects qui ont un impact direct sur le sujet simulation, à savoir les méthodes numériques. Et enfin, si j'ai le temps, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur des conséquences sur la formation des jeunes mathématiciens appliqués, qui est la terminologie que l'on utilise pour parler de mathématiciens qui interagissent avec des problèmes concrets. Eh bien, ces conséquences sont nombreuses et je voudrais en évoquer quelques-unes, puisqu'il est bon que nous réfléchissions tous, que la société réfléchisse à la formation de nos enfants. Quoi qu'il en soit, donc, je voudrais tout de suite commencer par des exemples, par des illustrations, comme je disais, et au fond, une illustration, a priori, pourquoi ne pas commencer par une image ? Donc, ce que je vais vous présenter relève du secteur des sciences de l'ingénieur que l'on appelle du traitement d'image. Pour l'instant, je ne vais pas du tout vous parler de mathématiques, on va regarder le problème. On va voir des images et on va se poser la question, qu'est-ce que l'on voudrait faire de ces images ? Ce sont des images numérisées, ce sont des tableaux de chiffres, peu importe, donc il y a des nombres derrière, mais peu importe, regardons les images et posons-nous la question, qu'aimerions-nous faire là-dessus ? Alors, donc, voici des images sur la partie gauche du transparent. Vous voyez qu'il y a tout un aspect granuleux que je vais appeler du bruit. Et l'œil humain faisant un très bon boulot pour reconstituer des informations manquantes et souvent même reconstituant des informations là où il n'y en a pas, éventuellement, quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'il y a simplement deux formes très simples, un triangle et un rectangle, noyés dans du bruit. Alors, du point de vue technique, ces images sont réalisées en générant un triangle noir et un rectangle noir, et en rajoutant là sur environ 40% des pixels, c'est-à-dire des petits carrés élémentaires qui composent le grand carré, en prenant sur environ 40%, en tirant au hasard 40% de ces petits carrés, et en mettant du gris à un niveau qui est lui-même tiré au hasard. Donc, c'est vraiment un bruit aléatoire, un bruit qui n'a pas de structure, qui n'a pas d'information, qui est rajouté à une structure. L'objectif et le problème que l'on se pose, c'est reconstituer les formes le mieux possible. Les extraire de ce bruit, enlever le bruit, filtrer le bruit. Donc, c'est un problème classique de traitement d'image. Et je vais vous montrer divers traitements qui correspondent à des étapes de plus en plus poussées de modélisation. Donc là, je pars du problème de départ et ensuite, sans rentrer trop dans les détails de modélisation, on va voir les résultats de la modélisation et de la simulation. Donc, ensuite, il me faudra évidemment expliquer qu'est-ce que l'on met dans la modélisation et dans la simulation. Première opération, c'est une opération linéaire pour ceux qui ont des connaissances en filtrage. C'est un bête filtrage gaussien, ce qui revient à résoudre une équation qui s'appelle l'équation de la chaleur. Peu importe, regardons juste le résultat. On voit que ce filtrage linéaire élémentaire qui est vraiment un des outils de base des ingénieurs, que ce filtrage linéaire fait un boulot qui est à peu près convenable, mais cela dit, ça reste flou, c'est quand même pas terrible. Et l'œil semble extraire un peu mieux, vous tous avez imaginé des formes un peu plus pures que celles qui apparaissent. Donc il est clair qu'il est difficile de se contenter d'un résultat comme ceci. On pousse un peu sur la modélisation, on travaille un peu sur la réflexion mathématique qu'il y a derrière ces formes, derrière ces images, et on aboutit à ce deuxième résultat. Donc, grosso modo, si vous voulez des dates, c'est en haut, c'est grosso modo ce qu'on savait faire dans les années entre 60 et 70. La deuxième image, c'est grosso modo ce que l'on savait faire dans les années 70 et 80, où on commence à incorporer des effets non linéaires. Je reviendrai sur ces notions non linéaires. Pour l'instant, illustrons. Et puis, pour vous donner un dernier exemple, ce que l'on peut faire en poussant énormément la modélisation, et c'est à peu près ce qu'on sait faire de mieux, on peut toujours faire un tout petit peu mieux, eh bien, on peut arriver à reconstituer automatiquement, grâce à vraiment une modélisation mathématique et ensuite une simulation numérique, on sait extraire automatiquement des formes comme qui sont assez correctes, même si c'est évidemment parfait, il n'y a pas de traitement parfait en l'occurrence. Augmentons un peu le bruit, toujours sur les mêmes images, pour voir un peu comment cela résiste à un problème encore plus compliqué. Là, on prend une image vraiment fortement bruitée. Donc à gauche, là, l'œil humain ne fait plus rien. À vrai dire, il ne fait plus rien aussi, parce qu'il y a une photocopieuse qui est passée entre les deux et qui a rajouté un peu de bruit. Mais quand même, là, l'œil humain commence à avoir du mal. Vous voyez que le traitement qui était le traitement intermédiaire, je n'ai pas montré le traitement linéaire parce que là tout est confus, et vous voyez quand même qu'un traitement fortement modélisé du point de vue mathématique arrive à extraire dans ce bruit infâme, pardonnez-moi l'expression, arrive à extraire les formes qui y étaient. Bien, un autre exemple toujours lié au traitement d'image, et puis je passerai à des applications qui sont un peu plus complexes encore. C'est en fait une séquence d'images. Vous voyez un certain nombre de carrés. Ceci est un problème. Toutes les images que je suis en train de vous montrer ont été effectuées. Tous les traitements ont été effectués dans mon département grâce à une très forte équipe de traitement d'images. Et le problème qui est ici est une version présentable. Il y a un certain nombre de problème de confidentialité associé à ce type de question, est une version donc montrable du problème qui consiste à extraire des objets en mouvement dans un fond extrêmement bruité. Je ne peux pas en dire plus, mais enfin, on devine un peu de quoi il peut s'agir. Bien, alors donc, vous allez ricaner à juste titre, il y a du bruit, il y a des... Peut-être j'ai un peu pointé, il y a des objets qui apparaissent qui visiblement sont des coupures qui se produisent sur une image, et les images défilent comme ceci. Hein. Donc c'est une séquence de 18 images pour être tout à fait 18, je ne sais même pas compter, trop facile, 24. Donc, oui, les mathématiciens ne savent pas compter, c'est bien connu. Hein. Bien, le reste est un mythe. Quoi qu'il en soit, on voit bien entendu un carré qui se déplace tranquillement à une allure de sénateur d'une image à l'autre. Et on se dit, OK, s'il faut faire beaucoup de maths pour extraire ce carré, ce n'est pas très impressionnant. Oui, il y a un carré qui se déplace, mais il y a autre chose. Et cette autre chose, voici le résultat du traitement. Il y a en dessous l'équation extrêmement complexe, extrêmement non linéaire, à laquelle on aboutit par une modélisation. Il y a autre chose qui se déplace et qui est à peine apparent. C'est un tout petit point qui est complètement noyé dans le bruit, qui se déplace lui également lentement. Donc, qu'est-ce qu'il fait que l'on peut l'extraire? Et c'est cela qu'il va falloir rentrer dans une étape de modélisation, c'est-à-dire de réflexion mathématique sur ce problème, c'est le fait qu'il y a des objets qui sont animés d'un mouvement régulier, d'un mouvement uniforme, qui ont une vitesse de déplacement à peu près constante, et il y a par contre du bruit qui fluctue énormément d'une image à l'autre. Donc, si l'on essaie de modéliser, de quantifier ça, c'est ça la piste. Il va falloir séparer ce qui fluctue n'importe comment, qui n'a a priori pas de comportement ou de mouvement régulier, et ce qui par contre se déplace avec un mouvement régulier uniforme. Vous voyez que l'œil, ça ne peut absolument pas repérer un point brillant comme ça qui se déplace dans le bruit. Bien, donc ça c'était pour vous montrer sur des illustrations, sur des images, comment une réflexion mathématique sur un problème de science de l'ingénieur peut apporter des solutions qui ne sont pas forcément les solutions auxquelles on s'attend. Je vais maintenant sauter à un deuxième type d'illustration, beaucoup plus industrielle, de grosse industrie, d'industrie lourde. Et il s'agit de comprendre ce qui se passe dans une cuve d'électrolyse d'aluminium. Alors, déjà, je vous ai amené une photo de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, de Péchiniers à Saint-Jean-de-Maurienne, où on voit un certain nombre de cuves qui sont alignées. Ça, ce sont des installations dites de R&D. Ils font aussi de la vraie production d'aluminium dans ces cuves-là. Donc ça, c'est une cuve. Voyons maintenant une coupe de cette cuve. Bon, objet extrêmement complexe. Fondamentalement, le principe, c'est d'avoir de l'aluminium fondu, un bain électrolyte, le tout pris en sandwich entre deux électrodes. Entre ces deux électrodes, il y a une différence de potentiel de quelques volts et surtout un courant immense qui passe à travers cette cube. C'est plusieurs centaines de milliers d'ampères, c'est de l'ordre de 400 000 ampères. Il y a énormément de phénomènes complexes de solidification, il y a des phénomènes d'électromagnétisme, il y a la corrosion des électrodes, il y a des dégagements de bulles. C'est quelque chose d'absolument infernal. Bien. Également, ce que l'on peut tout de suite dire, c'est vu les ordres de grandeur qu'il y a, on n'a aucune idée, on ne peut pas aller mesurer ce qui se passe dans cette cuve d'électrolyse. On n'y a pas accès, on n'a pas d'informations. D'où l'objectif, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur grâce à la modélisation et à la simulation. Qu'est-ce que ça veut dire la modélisation ? Cela va être de traduire en équations mathématiques les phénomènes physiques. La simulation, ça sera de résoudre numériquement ces équations. On verra alors apparaître des comportements numériques que l'on pourra essayer de vérifier avec les quelques mesures qui existent. Alors ça, c'est le schéma idéal pour montrer quelle est l'ampleur d'un projet comme ceci. C'est grosso modo, pour les quelques schémas que je présenterai, c'est 5 ans de travail pour une équipe pluridisciplinaire avec 3 ingénieurs, les consultations de 2 électrochimistes, un consultant chez Pechiney et une petite équipe universitaire que j'animais de 3 personnes. Qui ne bossait pas là-dessus en plein temps, mais il y avait au moins une des 3 personnes qui bossait là-dessus à plein temps. Bien, alors, effectivement, après donc, ces longues étapes de modélisation, de résolution numérique, on peut, dans des coupes comme ceci, observer la manière dont le fluide se déplace. Donc, je ne vais pas commenter, je ne vais pas en déduire ce qu'on apprend, mais on peut voir, ou en tout cas, on peut espérer voir ce qui se passe à l'intérieur de la cuve d'électrolyse. Donc, voilà une illustration de ce que l'on cherche à faire grâce à la simulation, c'est essayer de voir là où on ne peut pas voir ou là où, éventuellement, il est trop coûteux de voir. Bien. Donc voilà 2 petites illustrations et on en verra beaucoup d'autres au cours de l'exposé. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Tous les modèles dont je parlerai ont ceci en commun, c'est qu'ils reposent sur des objets mathématiques qu'on appelle des équations aux dérivées partielles et qui sont non linéaires. Le monolinéaire est en rouge, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur ce mot un peu plus tard. Donc, un peu de propagande, ce que je prétends, c'est que c'est un outil essentiel pour la compréhension du monde qui nous entoure. Mais cela, on le verra par la suite, et ce n'est pas la faute des mathématiciens, c'est vraiment la faute de l'évolution scientifique depuis de nombreux siècles. EDP, équation aux dérivées partielles, qu'est-ce que c'est, pour être un peu plus précis? Si on veut donner une définition, bien que je n'aime pas trop ça, c'est un ensemble de relations entre les dérivées partielles d'une fonction. Donc déjà, l'objet auquel on s'intéresse, c'est une fonction qui est définie sur un certain domaine, typiquement dans la cuve d'électrolyse, en tout point de la cuve, et puis ça dépend du temps, ça évolue au cours du temps, donc c'est une fonction des positions dans l'espace et du temps. Les équations des dérivées partielles sont des équations qui mélangent, évidemment de manière absolument pas arbitraire, qui mélangent des dérivées de cette fonction. Alors ça paraît simple, et on se dit, au fond, on a tous appris au lycée, plus ou moins péniblement, ce qu'étaient les dérivées d'une fonction. Mais je voudrais faire quelques remarques historiques parce que je crois que le passé illustre toujours ce qui est en train de se passer. Première remarque que je voudrais faire, c'est que bien qu'on fasse souffrir tous nos enfants sur les notions de dérivée, il ne faut pas croire que la définition de dérivée est apparue de manière spontanée, figée et restée vraie une fois pour toutes. La définition de dérivée et même de fonction a énormément évolué au cours des siècles. Donc, je ne reviendrai pas à la polémique entre Leibniz et Newton, surtout Newton qui voulait se réapproprier un tout petit peu des inventions de Leibniz, même si Newton avait des idées sur les notions de dérivée. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas des notions qui sont d'une précision extraordinaire. Leibniz utilisait un langage qui est presque le langage moderne, mais cela reste des définitions un peu plus floues. Au XIXe siècle, la notion de dérivée s'est énormément précisée. Et elle est devenue même plus que précise, elle est devenue d'une certaine manière restrictive. Il y a eu des erreurs historiques, mais peu importe, ça s'est précisé, ça s'est décanté. Au XXe siècle, donc une notion centrale, précise, rigoureuse de dérivée est apparue, et au XXe siècle, on a vu à ce moment-là apparaître tout un tas de notions plus faibles, des variantes de notions de dérivée. C'est-à-dire qu'à partir de ce tronc central de notions de dérivées sont arrivées beaucoup de branches portant chacune des idées différentes et des notions plus faibles. Et là, il y a des grands noms, Le Bègue au début du siècle, Sobolev en Russie, le grand mathématicien français Jean Leray et le non moins grand mathématicien Laurent Schwartz, avec les distributions, les dérivées au sens des distributions, les espaces de Sobolev, etc. Je voudrais également évoquer, ça nous rapprochera un tout petit peu plus de ce que j'évoquerai un peu plus tard, je voudrais également évoquer un certain nombre de controverses célèbres, ou parfois même d'erreurs mathématiques, avec notre vision d'aujourd'hui. Et parmi celles-ci, je voudrais évoquer d'Alembert sur ce qu'on appelle l'équation des ondes, l'équation qui régit la propagation des ondes. Eh bien, tout le monde, et d'Alembert le premier, avait observé que les solutions étaient obtenues, en tout cas dans un contexte unidimensionnel, dans des propagations unidimensionnelles, et c'est plus ou moins ce que l'on apprend en électromagnétisme dans les cours de physique, peut-être en classe prépa, mais c'est fondamentalement cela que l'on apprend. Eh bien, on avait observé que les solutions étaient toujours de la forme d'une fonction de x plus t, des choses qui se déplacent vers la gauche, vers la gauche, et puis des fonctions de x moins t, c'est-à-dire des choses qui se déplacent vers la droite, la vôtre. Donc, et là, la question qui se posait aux gens, et il y a eu des controverses sanglantes, c'était au fond de dire, mais attendez, pour quelle fonction on a le droit de dire ça? Au fond, c'est qu'est-ce que ça veut dire être solution de ces équations? Donc, il y a les notions de dérivée, il y a les notions de fonction, et il y a les notions de qu'est-ce que ça veut dire être solution d'une équation. Fourier, au XIXe siècle, pour résoudre l'équation dite de la chaleur, celle qui explique comment le champ de température évolue, par exemple, dans cette pièce, c'est l'équation de la chaleur en dimension 1, c'est-à-dire si on regardait juste sur une droite, eh bien, cette équation est un mélange de dérivées temporelles et de dérivées spatiales. Bon. Si vous n'êtes pas familier avec des dérivées partielles, n'y prêtez pas d'attention. Sinon, vous voyez un mélange de dérivées. Et je crois que ça suffit pour un premier niveau de compréhension. Fourier, pour résoudre ceci, invente ce qu'on a appelé les séries de Fourier, qui ont eu un impact considérable aussi bien sur les sciences de l'ingénieur que sur les mathématiques. Une branche des mathématiques est née de ceci, on pourrait dire l'analyse harmonique est née des séries de Fourier. Mais il y a eu des controverses épouvantables. Qu'est-ce que c'est ces objets que ce Fourier prétend introduire pour résoudre l'équation de la chaleur? Un tout petit peu plus tard, l'immense Riemann, pour d'autres équations des dérivées partielles, cette fois-ci non linéaires, ce qu'on appelle des lois de conservation, dans lesquelles apparaissent des chocs, qui sont des sortes de discontinuités, a essayé de comprendre la formation de ces discontinuités et a proposé des notions de solution qui se sont révélées fausses. Donc il s'est complètement trompé là-dessus, ça a été corrigé plus tard par Rankine et Hugoniot, pour bien montrer qu'en quel sens ces solutions de l'équation, ce n'était pas quelque chose de clair, et que même aujourd'hui, cela reste une source de questions importantes. Quoi qu'il en soit, après cette brève perspective historique, pour montrer que, OK, une équation des dérivées partielles, c'est un ensemble de relations entre les dérivées d'une fonction, c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. J'aimerais maintenant que l'on essaie de comprendre pourquoi des équations aux dérivées partielles apparaissent dans la réalité et dans quelles situations elles apparaissent. Et pour cela, je suis obligé de faire une comparaison par rapport à un autre outil de modélisation qu'on appelle des équations différentielles ordinaires. Les équations différentielles ordinaires sont les équations de Newton. C'est F égale M gamma. C'est une équation différentielle ordinaire. Gamma, c'est la dérivée seconde temporelle de la position. Donc ça sont les équations dérivées, les équations différentielles ordinaires. Les équations aux dérivées partielles, qui apparaissent un peu plus tard, pourquoi apparaissent-elles? Eh bien, fondamentalement, le parallèle, c'est que les EDP s'intéressent au continu, alors que les équations différentielles ordinaires se préoccupent de choses qui sont discrètes. Un peu plus précisément, on étudie des structures qui sont flexibles. Par exemple, quelque chose qui est mou. Ça, c'est mou, on ne peut pas le repérer par un nombre fini de points. Il est clair que tous les points de la feuille comptent, continuent. Par contre, si je prends quelque chose de rigide, imaginons que cette bouteille ne soit pas en plastique mais soit en verre, c'est un objet rigide, et donc lorsque je connais grosso modo son centre de gravité et son orientation, je connais les positions de tous les points de la bouteille. Donc vous voyez comment on peut décrire de manière discrète un objet rigide et de manière continue un objet flexible. Et c'est donc la distinction entre fonction et point. Alors, c'est un outil essentiel parce qu'il y a beaucoup plus de choses flexibles que de choses rigides. L'air qui nous entoure n'est évidemment pas un objet rigide. Tous les fluides sont des objets qui sont a priori flexibles, qui sont mous, si vous me permettez l'expression. C'est pour ça qu'un bon exemple de modélisation et d'histoire de modélisation est précisément la mécanique des fluides. Donc là, je voudrais écrire au moins une équation aux dérivées partielles, même s'il y en avait une qui était apparue au moment de mon transparent sur le traitement d'images de film. Et je voudrais vous donner quelques dates de la modélisation sur l'exemple de la mécanique des fluides et la dynamique des gaz. Au fond, quelles sont les équations mathématiques fondamentales qui régissent l'air qui nous entoure, qui régissent l'écoulement de l'eau dans la Seine? Donc l'histoire commence avec Euler en 1755, qui écrit les équations de l'air compressible et incompressible, qui sont des équations aux dérivées partielles non linéaires, parce que vous voyez qu'il y a des U multipliés par U, où là-dedans les inconnus sont à la fois la densité du fluide et la vitesse du fluide et éventuellement la pression. Bon, alors il y a des équations compressibles, il y a des équations incompressibles, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça nous emmènerait trop loin, mais je voudrais faire une remarque, c'est au fond pourquoi Euler écrit ces équations. Eh bien, la petite histoire, c'est que Euler, on avait demandé à Euler, un roi quelconque avait demandé à Euler de réfléchir à une fontaine. C'est-à-dire que la modélisation des fluides est née d'un souci qui, à l'époque, était un souci industriel majeur, à savoir construire des fontaines pour les parcs royaux. Et deuxième anecdote que je trouve plaisante, c'est que Euler, en 1755, quand il écrit ses équations de l'air, indique sur la première page de son article, du point de vue mécanique ou physique, je ne sais plus quel mot il employait, l'affaire est réglée. Je m'exprime un peu librement, l'air s'exprimait certainement avec beaucoup plus de distinction que je ne le fais. Quoi qu'il en soit, l'affaire est réglée. Il subsiste néanmoins une légère difficulté analytique. Je reviendrai sur cette légère difficulté analytique qui est loin d'être totalement réglée. La suite de l'histoire, c'est que Euler ne prend pas en compte un phénomène crucial pour les fluides, qui est le phénomène dit de viscosité. C'est que, si vous voulez, des particules de fluide, les unes entre les autres, frottent entre elles et que cela modifie l'écoulement. À tel point, d'ailleurs, que D'Alembert avait d'ailleurs démontré, de manière, si on veut, un peu caricaturée, avait démontré que sans viscosité, théorème, les oiseaux ne peuvent pas voler. Bon, il a même eu un prix pour ce théorème, un prix de l'Académie des sciences de Dijon. Ce que cela veut dire, ce n'est pas du tout absurde. Ce que cela veut dire, c'est que le modèle n'était pas suffisant pour décrire la réalité. Les équations ne prenaient pas suffisamment en compte de phénomènes physiques pour pouvoir effectivement espérer un jour décrire, disons, un avion volant. Et donc, date extrêmement importante, Navier en 1822, prend en compte l'effet de la viscosité, écrit les équations de Navier-Stokes compressibles et incompressibles, et je reviendrai là-dessus pour dire que du point de vue mathématique, c'est loin d'être réglé. Une autre étape que je qualifie de très importante est l'étape de Ludwig Boltzmann en 1872, après les travaux tout à fait remarquables du grand Lord Maxwell en 1866, le même que celui de l'électromagnétisme, qui écrit des modèles pour les équations pour des gaz raréfiés et qui décrit une asymptotique formelle qui permet de retrouver les équations de l'air et les équations de Navier-Stokes à partir des équations de Boltzmann, et c'est devenu ce qu'on peut appeler le programme de Hilbert. Alors, à quoi tout ceci sert-il? Quelles sont les applications de la mécanique des fluides et de la dynamique des gaz? Ces applications, il y a d'abord d'une part les applications classiques, du style aérodynamique, fluide. Je vais vous en montrer tout de suite quelques-unes. Voici une voiture, donc ça c'est fait vraiment à un niveau industriel. Voici le calcul de l'écoulement de l'air autour d'une voiture. Évidemment, tout à fait crucial pour comprendre de quoi il s'agit. Donc là, les petites flèches indiquent les vitesses. Donc c'est une autre manière de visualiser les vitesses avec des couleurs. Bien, voilà donc un exemple d'aérodynamisme. Ça, c'est les équations de Navier-Stokes compressibles, fondamentalement. Les équations de Navier-Stokes, les équations de Boltzmann, gaz raréfié, voici un autre exemple qui était au moment où l'Europe voulait se lancer dans une navette spatiale. Ça s'appelait le programme Hermès, comme vous vous en souvenez sans doute. Et donc, ceci, ça correspond à un objet, donc cette sorte d'avion, qui est en train de voler à une altitude de 92 km de haut et qui a un Mach qui est de l'ordre de 18. À cette altitude, l'atmosphère est raréfiée et on ne peut pas se servir des modèles classiques de la mécanique des fluides qui exigent un milieu beaucoup plus dense, pour parler de manière un peu imagée, que ce qu'on trouve en termes d'atmosphère à 82 km. Donc ce sont des exemples de simulations qui ont été réalisées aérospatiales. Je voudrais dire d'ailleurs, pour bien montrer l'interaction des mathématiques et de problèmes industriels, que le programme Hermès a eu des répercussions très importantes du point de vue des mathématiques, y compris théoriques, puisque effectivement, les gens se sont dit, on a besoin de se servir de modèles de style gaz raréfié, notre compréhension est loin d'être suffisante pour ces modèles, donc il est temps de s'y remettre, d'y retravailler, et des progrès substantiels ont été accomplis. Donc, voici quelques applications classiques, même si Hermès est loin d'être une application classique, mais du style aérodynamique, mais des applications de la mécanique des fluides, vous en connaissez énormément. La météorologie, la climatologie, les écoulements sanguins, et les gros efforts actuellement qui sont faits en termes de modélisation et de simulation des écoulements sanguins avec des applications évidentes à la santé. La modélisation de polymères, toutes les matières plastiques. Également des problèmes de transport, au sens déplacement de véhicules sur une autoroute. Et également, ce que l'on voit poindre actuellement, c'est la modélisation des écoulements dans l'industrie agroalimentaire. Donc, si vous voulez, les applications de ce domaine ne manquent pas. Quoi qu'il en soit, revenons un petit peu en arrière. OK, on écrit des équations. C'est, on peut dire, beaucoup le travail des physiciens, des chimistes, des biologistes, des économistes. Mais j'expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi. C'est aussi le travail des mathématiciens, avec leur aide, bien entendu, ou plus exactement, on peut essayer d'apporter notre contribution à ce sujet. Mais si l'on doit résumer, pourquoi des équations aux dérivées partielles apparaissent systématiquement ? C'est que dans le passage au continu, il y a évidemment l'idée d'avoir un très grand nombre de particules. S'il n'y en avait qu'un nombre fini, on serait en train de gérer un système qui est fondamentalement de nature discrète. Donc, grand nombre de particules. Impossibilité de décrire le comportement de chacune d'entre elles. S'il y en a un trop grand nombre, ça devient impossible. Donc on va s'efforcer d'avoir une description collective ou du comportement moyen de ces particules, particules qui, bien entendu, interagissent. Dans la mécanique des milieux continus, c'est effectivement comme ceci que des équations aux dérivées partielles ont abouti. Quiconque suit un cours de mécanique des milieux continus verra exactement cette problématique apparaître. Dans le traitement d'image, puisque je vous ai parlé de traitement d'image, or, entre la mécanique des fluides et le traitement d'image, les relations ne sont pas claires. Quel est l'analogue ? Les particules sont les petits carrés élémentaires, ce sont les pixels. Par contre, l'interaction n'est pas connue, et la modélisation, c'est justement de trouver une interaction qui permettra que le modèle que l'on aura écrit fasse le traitement que l'on voulait, c'est-à-dire extraire le bruit. Donc là, il n'y a pas d'interaction physique entre ces pixels, il faut la trouver pour qu'on, par exemple, sur les exemples que j'ai donnés, on élimine le bruit. Donc là, il y a un effort de modélisation à faire avant même que d'étudier et de faire la simulation. Dans les transports, bien, c'est clair, l'analogie est claire, ce sont tous ces véhicules, on a un très grand nombre de véhicules, ceci, si on veut, des comportements moyens, on peut le voir comme des particules qui interagissent. En finance également, on se sert énormément d'équations aux dérivées partielles. Si vous voulez, la plupart des outils qui permettent de donner des prix à ce qu'on obtient des options ou des produits dérivés ou qui permettent de trouver des couvertures, la plupart de ces prix et de ces couvertures sont basés sur des calculs faits à partir d'équations aux dérivées partielles. Pourquoi y a-t-il des équations aux dérivées partielles dans ce domaine aussi singulier qu'est la finance ? Tout simplement parce qu'il y a un grand nombre d'agents et qui interagissent par, le mot barbare étant, par trading. Donc, grand nombre d'agents qui interagissent, il y a des comportements moyens qui peuvent alors apparaître. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les traders, pardonnez-moi l'expression, l'anglicisme, les traders qui ne se caractérisent pourtant pas toujours par un grand esprit scientifique, les traders ont tout à fait intuitivement inclut le jargon de produits liquides, de liquidités, pour bien montrer quelque chose qui se déplace de manière rapide entre les mains de beaucoup de gens, de manière virtuelle. Bien, donc voilà, si vous voulez, le fil conducteur qui fait que dans un grand nombre d'applications différentes, par cette tentative de décrire l'évolution et la dynamique d'un grand nombre de particules en interaction, apparaissent systématiquement des équations aux dérivées partielles. Alors, les non-linéarités abondent. Et en fait, rien n'est vraiment linéaire. C'est pour ça que, de manière un peu simpliste, j'écris que fondamentalement, le monde est non-linéaire. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, linéaire et non-linéaire? C'est grosso modo, si l'on veut un peu simplifier, c'est que le linéaire correspond à des lois simples qui permettent d'ajouter ou de multiplier les causes à partir, qui permettent, si l'on ajoute ou l'on multiplie des causes, de simplement obtenir des effets ajoutés ou multipliés. Donc, on regarde quelque chose, on multiplie par deux ce qui entre dans le système, ce qui en ressort est simplement multiplié par deux. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, si vous voulez un exemple très simple du fait qu'on a tendance à d'abord raisonner en linéaire et puis ensuite on raisonne en non-linéaire, c'est que la première vision que l'on a du monde, c'est qu'il est plat. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il est plus non-linéaire et qu'en fait, il est plus complexe, disons. Alors, les non-linéarités, par contre, s'il y a un fil conducteur général à l'apparition des équations dérivées partielles dans les applications, par contre, les non-linéarités, les raisons pour lesquelles les non-linéarités apparaissent sont multiples. Cela peut venir de principes fondamentaux, d'invariances physiques, cela peut venir de lois constitutives qui essayaient de mieux décrire le fonctionnement. Donc les principes fondamentaux, les invariances, c'est vraiment ce qui se passe en mécanique des fluides, mais les lois constitutives, c'est aussi ce qui se passe en mécanique des fluides. En traitement d'image, c'est les lois constitutives, c'est-à-dire quand on fait ce design, entre guillemets, des interactions qu'apparaissent naturellement des lois constitutives non linéaires. Mais également une raison pour laquelle il n'y a rien de linéaire dans des images, ça tout le monde peut le comprendre, c'est que si vous prenez une image et vous prenez une autre image, la somme de ces deux images, ça n'a aucun sens. Donc c'est un argument très simple qui montre qu'il n'y a aucune raison d'avoir des phénomènes linéaires associés au traitement d'image. Même si les phénomènes linéaires étant plus simples, on peut bien entendu commencer par s'en servir. Alors, il y a également quelque chose qui est fondamental dans la création de non-linéarité, c'est des effets de moyenne. Alors, ça, c'est par exemple ce qui se passe aussi bien au niveau de l'équation de Boltzmann pour les gaz raréfiés à travers des hypothèses statistiques que dans ce domaine qu'on appelle la chimie quantique et des équations qui portent le nom de Hartree-Fock. Un essai, alors ça, je ne veux pas insister là-dessus. Associé à ces non-linéarités et ces effets de moyenne, il y a la notion qui est absolument fondamentale, qui est la notion d'échelle. Et associé à ce phénomène d'échelle, il y a des problèmes asymptotiques, c'est-à-dire de liens entre les échelles. C'est que, fondamentalement, les modèles n'ont un domaine de validité qu'à une certaine échelle. Donc ça, il est bien clair que si on regarde l'air à l'échelle macroscopique, qui est celle du centimètre ou du millimètre, c'est-à-dire grosso modo des échelles qui sont compatibles avec ce que nous observons, on n'a pas le même comportement que si on était en train de regarder avec un microscope électronique. Donc c'est une évidence et il faut avoir ceci en tête. Et cela conduit à un sujet qui est absolument fondamental à travers toutes les disciplines, c'est fondamental en physique, c'est fondamental en mathématiques, ce sont les relations entre les échelles et les modèles associés. Et ça, du point de vue de l'analyse mathématique, cela conduit à des problèmes fortement complexes, des problèmes asymptotiques. Alors, je vais vous donner un exemple, toujours lié à l'espace, donc toujours des clichés qui viennent d'aérospatial. Voici, en termes d'altitude et de Mach, les comportements d'un certain nombre d'objets. Donc, vous voyez là-dedans, launcher, c'est simplement Ariane 5. Vous voyez les avions tout en bas, ici, hein, c'est le domaine de vol en termes de nombre de Mach et d'altitude. Ce sont des capsules, des espaces. Bon, tout ça, SSTO, c'est Single Stage to Orbit, c'est les lanceurs qui doivent monter d'un coup sans larguer d'étage en orbite. Sur tout ceci, on va plaquer des phénomènes physiques. Je ne vais pas tous les commander, ça nous emmènerait trop loin. Mais vous voyez ici, gaz raréfié. Gaz raréfié, un trait dur, ça veut dire là, c'est le régime où on voudrait servir du modèle de Boltzmann. Tout en bas, les effets de Reynolds, c'est là, autour des avions, c'est là où on voudrait servir d'un Navier-Stokes pur et dur. Entre les deux, il y a des Navier-Stokes de plus en plus complexes, et il y a des phases de transition en altitude et en Mach, où on ne sait pas très bien. Et donc, en fait, ce qu'on a, les ingénieurs ont beaucoup de mal à gérer, c'est vraiment un problème actuel, ce sont des altitudes intermédiaires. Quand on bascule d'un gaz raréfié qui se densifie, quand on descend en altitude, il se densifie. Si on est vraiment bas, c'est un fluide au sens classique du terme. Mais entre les deux, on essaie de pousser un peu des deux côtés, mais il y a des difficultés. Ces difficultés se retrouvent en fait dans le lien entre ces modèles, même si formellement il existe un lien. Il est important de réfléchir mathématiquement à ce lien pour essayer d'aider les ingénieurs à concevoir des simulations numériques qui fonctionnent dans cette zone intermédiaire. De manière plus générale, le programme de Hilbert généralisé consisterait justement à passer entre tous ces modèles. Donc c'est un diagramme un peu complexe. Boltzmann, Navier-Stokes, compressible, incompressible. Là-dedans, il y a tout un tas de nombres physiques, comme le célèbre nombre de Mach qui permet de passer du compressible à l'incompressible. Eh bien, toutes les relations qui existent là, qui sont des relations formelles, si on fait des sortes de développements limités heuristiques, on comprend pourquoi on peut passer d'un modèle à l'autre. Derrière toutes ces questions, il y a des préoccupations concrètes. Derrière toutes ces questions, il y a des problèmes mathématiques d'une complexité considérable. Le dernier point sur lequel je veux insister, avant d'illustrer un tout petit peu analyse et application, et j'aurais fait l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est d'insister sur la notion de couplage. Couplage qui sont des couplages multidisciplinaires, des couplages d'échelle. Par exemple, donc, il y a un certain nombre de mots que je ne vais pas tous contenter, autour de l'aérodynamique, l'aéroacoustique, l'aéroélasticité, l'aérothermique. Il y a ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique, qui est un mélange d'électromagnétisme et d'hydrodynamique. Par exemple, ce qui rend les choses particulièrement difficiles pour la simulation d'une cuve d'électrolyse, c'est précisément ce couplage entre électromagnétisme et hydrodynamique. Et là-dessus, le fait que, si en général, les spécialités d'ingénieurs sont soit sur l'électromagnétisme, soit sur la mécanique des fluides, lorsqu'il y a des codes industriels, ils sont soit sur l'électromagnétisme, soit sur l'hydrodynamique, c'est là où les mathématiques servent aussi à faire que tout le monde puisse se parler grâce à ce langage commun qui est les mathématiques, bien sûr. OK, analyse et application. Donc, modèle, je vous ai donné tout un tas de raisons qui tiennent peut-être un peu plus de l'invocation que de réellement une description précise et détaillée de ce que sont les équations de dérivées partielles et pourquoi elles apparaissent. Mais donc, admettons ce point, elles apparaissent et on sait à peu près pourquoi et comment elles apparaissent. La simulation, de quoi il s'agit ? La simulation, il s'agit d'écrire des codes dans lequel les équations sont d'une part discrétisées et les équations discrètes obtenues sont résolues par des algorithmes. Du point de vue mathématique, il est clair qu'il y a deux questions qui interviennent, qui est d'une part comment on discrétise et d'autre part quels sont les algorithmes. Les ordinateurs étant des machines extrêmement puissantes, mais complètement idiotes. Il faut leur indiquer comment on va résoudre ces équations. C'est ce que font ces algorithmes. Et enfin, donc là, il est clair que les mathématiques interviennent ici. Mais elles interviennent aussi pour l'analyse des équations, pour les comprendre, pour valider les simulations, pour vérifier que les modèles sont cohérents avec la réalité, pour analyser les couplages. Donc voilà toutes des raisons qui exigent de faire des mathématiques parfois extrêmement théoriques. Je voudrais vous donner un exemple très simple, qu'on peut tous comprendre. Du sur dt égale du sur dx, on prescrit une condition initiale, on a un phénomène qui est uniquement un phénomène de transport sur la gauche. Donc là, j'écris la condition initiale, c'est une marge d'escalier. Donc, entre moins l'infini et 0, ça vaut 0, et entre 0 et plus l'infini, ça vaut 1, une simple marge d'escalier. Ce qui se passe dans cette équation, c'est que cette marge d'escalier va se propager sur la gauche à vitesse constante, à vitesse 1. Donc, la solution à l'instant t, c'est la même marge d'escalier donnée par, qui est simplement décalée de t. Donc voilà la solution, on la connaît, équation très simple, bien entendu linéaire, si vous multipliez par 2 la marge d'escalier, tout est multiplié par 2. Donc exemple très très simple, absolument pas représentatif de modèle réel. Mais néanmoins, on va tout de suite voir une difficulté. Qu'est-ce que c'est la discrétisation ? La discrétisation, c'est fondamentalement revenir à l'idée de qu'est-ce que c'est une dérivée. Une dérivée, ce sont des limites de taux de variation, ce sont des taux de variation infinitésimaux. Donc on va remplacer des dérivées par des taux de variation discrets. Donc la première chose qu'on commence à faire, c'est à mailler, comme on dit, c'est-à-dire prendre des x qui sont discrets, qui sont tous espacés de delta x, donc c'est l'espacement de toutes ces mailles, et donc tous les points sont étiquetés par des j delta x, 0, 1 delta x, 2 delta x, 3 delta x, et ainsi de suite. Même chose, même opération en temps. 1 delta T, 2 delta T, 3 delta T. Bien. Donc ça, c'est l'étape de discrétisation. Ensuite, on ne va plus chercher une fonction partout, on va chercher des valeurs numériques en ces points-là, c'est-à-dire J delta X, et en ces temps-là, c'est-à-dire K delta T, c'est-à-dire sur ce réseau. Et bien entendu, on va résoudre les équations en remplaçant les dérivées par des petits accroissements. Si delta x est petit, si delta t est petit, la différence entre deux valeurs doit, divisée par la distance, doit être assez semblable à la dérivée. Donc du sur dt, je l'écris comme ceci. Et puis pour du sur dx, je vous donne trois choix possibles. Effectivement, du sur dx, c'est regarder l'écart avec ses voisins. Donc je peux prendre le voisin de droite, le voisin de gauche, ou prendre la demi-somme des voisins de gauche et de droite, grosso modo. Et c'est ce qu'on appelle les différences finies centrées, c'est donner le même poids à gauche et à droite. Et puis ça, c'est faire un choix, soit aller vers la droite, soit aller vers la gauche. Excusez-moi, ça c'est vers la droite, ça c'est vers la gauche, et ça c'est centré. Eh bien, si on fait un petit calcul en prenant un rapport de pas de temps et de pas d'espace qui est C égale à 1, le choix 1 donne la solution exacte, vous pouvez faire le calcul, les choix 2 et 3 donnent des résultats absolument catastrophiques. Pourtant, c'était très, très naturel de prendre n'importe quelle petite variation. Eh bien, on peut le voir avec le premier pas de temps. Donc, la solution exacte, c'est celle qui est décalée d'un pas de temps. Le schéma 2 vous donne la valeur 3,5 en 0, la valeur 1,5 en moins delta x, c'est-à-dire que vous avez déjà commis une erreur de 50% en un pas de temps. Et ça ne s'améliore pas, ça s'améliore pas par la suite. Sur le troisième choix, vous récupérez là, c'est carrément une erreur de 100% qui est faite en un pas de temps. Bon. Donc on voit sur un exemple très simple comme ceci qu'on a intérêt à comprendre ce qu'on fait quand on discrétise et quand on veut écrire des algorithmes. Bien. Alors, je voulais également indiquer que si on prend un temps qui va beaucoup plus vite, un delta t qui va beaucoup plus vite que le delta x, alors il n'y a aucun choix qui ne marche carrément. Donc non seulement il faut faire attention à la discrétisation, mais il faut faire attention à la compatibilité de ces discrétisations, il faut faire des maths. Bien, alors ça ce sont des maillages très simples, voici un maillage autour d'une voiture, hein, pour qu'on ne reste pas avec l'idée que c'est simplement mettre des petits points, tous les delta x et les delta t. Hein. Donc voilà un petit exemple. Mais les non-linéarités rendent les choses extrêmement difficiles, et j'en finirai là, enfin j'ai un dernier transparent après celui-ci. La petite difficulté analytique de l'air, eh bien, Euler compressible en dimension 2, on est loin de tout savoir et c'est un euphémisme. Euler incompressible en dimension 3, on ne sait pas si des singularités se forment ou non. Navier-Stokes tridimensionnel incompressible, donc une des équations de base de la mécanique des fluides, il y a quelques temps une annonce de prix à $1 million sur un certain nombre de problèmes mathématiques, c'est un des 7 problèmes. C'est comprendre si oui ou non il y a la formation de singularité. Donc on sent bien que ce n'est pas une des questions les plus faciles qu'il y ait, c'est dans le domaine de l'analyse mathématique et en fait de tous les secteurs de l'analyse qui interviennent. Les progrès sont lents, mais néanmoins importants, avec des grands noms, Riemann, Leray, von Neumann, Hopf, etc. Apparaissent l'analyse numérique, les expériences numériques. Grâce à les expériences numériques, on se forge une idée du comportement des solutions qu'on peut essayer de prouver. Donc c'est quelque chose qui devient pratiquement une science expérimentale, ou en tout cas qui a des composantes expérimentales, même s'il y a effectivement des composantes qui sont purement mathématiques. Sur les progrès récents et les tendances, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a eu énormément de travail accompli sur qu'est-ce que cela signifie être solution de l'équation. Hein, je vous avais dit que historiquement, ça avait été un long débat, et bien ce débat est réapparu depuis une trentaine d'années, et fondamentalement, le jeu est toujours le même, c'est qu'on transforme des propriétés auxquelles on s'attend, des propriétés formellement vérifiées par les solutions, on les transforme en définition. Alors, pour des classes générales d'équations, exemple, c'est les théories de solutions de viscosité qui permettent de gérer aussi bien des équations comme celle de la chaleur, c'est-à-dire qui montrent la propagation de la température dans cette pièce, que des problèmes de contrôle optimal, que des images, que la finance, etc. Également, une autre tendance qui est très forte, c'est de non pas essayer d'analyser le comportement d'une solution, mais d'avoir un comportement d'ensemble de solutions. Et ça, c'est aussi bien important que pour des questions théoriques comme l'existence, que la stabilité, que l'approximation numérique, parce que bien entendu, Les solutions que l'on génère numériquement dépendent de ces pas de maillage. Donc, on a des ensembles de solutions, on n'a pas une solution. Et également pour les problèmes asymptotiques, où la dépendance par rapport à un nombre physique qui bouge crée non pas une solution, mais un ensemble de solutions. Et enfin, ce que l'on voit apparaître, c'est que c'est un domaine qui exige de l'imagination, puisqu'il faut construire ces outils, il faut, la non-linéarité fait qu'il faut servir d'à peu près tout ce qui existe en analyse et se servir de nombreux outils. Donc la dernière chose, et je voudrais, si vous me permettez, finir avec les aspects de formation. Donc les tendances couplage, couplage d'échelle, de prise en compte de phénomènes mal connus ou mal compris par des termes stochastiques sont des tendances très lourdes, mais je ne veux pas insister là-dessus. Par contre, le message sur la formation me paraît, en tout cas j'y tiens beaucoup en tant qu'enseignant, c'est qu'il est clair qu'il nous faut le plus possible introduire des formations qui soient très multidisciplinaires. Alors la multidisciplinarité, tout le monde en parle, c'est une tarte à la crème, mais quand on regarde ce qui se passe réellement dans la réalité, ça ne bouge pas beaucoup. Donc c'est très multidisciplinaire, on voit apparaître des jeunes mathématiciens appliqués qui doivent être à l'aise aussi bien avec des aspects de modélisation, qui relèvent donc des autres sciences, avec des aspects d'analyse théorique, mais aussi de simulation, à être à l'aise avec les machines, avec les langages, etc. Donc là, c'est vraiment demandé beaucoup. C'est, si on veut faire une comparaison sportive, j'aime beaucoup le sport, si on doit faire une comparaison sportive, ce ne sont pas des coureurs de 100 mètres ou des lanceurs de poids que l'on cherche, ce sont des décathloniens. C'est clair. Et enfin, je voulais conclure par un petit peu de propagande. Je vais essayer de vous montrer un certain nombre d'exemples de modélisation et de simulation pour vous montrer des mathématiques qui sont en prise directe avec des problèmes réels, des problèmes industriels ou des problèmes scientifiques, et qui en plus fournissent des problèmes mathématiques, nous restons des mathématiciens, qui sont absolument fascinants de par aussi bien leurs difficultés que leur structure. Bon, j'espère que vous avez survécu dans cette enceinte extrêmement chaude et bien entendu, je serai ravi de répondre ou d'essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup.
Merci monsieur. Donc nous allons passer aux questions. Alors le micro. On verra, monsieur, si c'est possible. Donc, il y a une question là.
Soyez gentil. Ah oui, il faut que le micro arrive.
Hein, oui. Ça. Allez-y.
Est-ce que vous...
Ça marche, monsieur.
Est-ce que vous essayez de modéliser, de simuler? Vous essayez de modéliser, de simuler les phénomènes de matière en grain, comme par exemple
de matière
en grain, comme par exemple les déplacements de galettes de pétrole sur l'océan.
C'est une très bonne question. Le vous est un vous que j'imagine générique, c'est au sens de d'une communauté d'intérêt. C'est une excellente question. Sur le problème spécifique de nappes de pollution comme ceci, je ne suis absolument pas capable de répondre. Je ne suis néanmoins pas au courant d'études sérieuses qui ont été menées dans cette direction. Il y a néanmoins un certain nombre de sujets qui s'y rapprochent, qui sont reliés. Le phénomène qui est extrêmement difficile à prendre en compte, là-dedans j'imagine, hein, je réfléchis en temps réel. Hein. Donc le phénomène qui est a priori difficile à prendre en compte, c'est les aspects de fragmentation de la nappe. Donc par analogie, je regarde un tout petit peu ce qui a été fait autour de des modèles qu'on appelle des modèles de coagulation-fragmentation, qui ont été faits dans des optiques autres ou des modèles de gouttelettes. Donc il y a un certain nombre de modèles qui sont apparus, je dirais, depuis une quinzaine d'années, qui incorporent des idées de physique statistique et de mécanique statistique, qui pourraient peut-être fournir des éléments de réponse. Mais je ne suis pas pour être très spécifique sur le problème de nappe de pétrole avec ces difficultés considérables de fragmentation et suivant les propriétés, un type 2, type 1, de savoir à quelle hauteur cela va se balader, puisque un des grands problèmes sur le principal problème qui a eu lieu sur la prédiction de où allait aller la nappe de l'Erika, c'est que les gens n'avaient pas pris en compte le bon type de fuel qui était en jeu. Hein. Et donc, au lieu de se déplacer en surface, ou le contraire, il était à 30 cm en dessous de la surface, et que c'est ça qui a conduit à des erreurs que tout le monde a constatées. Donc, ce n'est pas tant les modèles qui ont conduit à ces erreurs, qui sont des modèles de dérive. Là, on ne gère pas du tout la fragmentation, on regarde les courants, on a des cartes de courant, on regarde où ça va. Mais si on veut être beaucoup plus dans le détail, là, je ne sais pas.
Une question là-haut, madame. Levez-vous, s'il vous plaît.
Monsieur m'a vu. Oui, vous nous avez parlé de modélisation d'objets bien délimités, dans des situations néanmoins difficiles. Qu'en est-il de modélisation de concepts?
Je ne m'y aventurerai pas.
Alors, néanmoins, j'aurais voulu ajouter, néanmoins, les sciences humaines tentent de s'y aventurer.
Oui, et c'est très bien, mais d'abord, il faut être extrêmement modeste. Donc, je veux dire, en tout cas, les mathématiques que je reprends et représentent sont extrêmement modestes. Donc, il est clair que nous avons besoin de lois de comportement, de lois, les lois de Newton, on n'invente pas... on n'invente pas facilement des lois aussi complexes, notamment quand le nombre de degrés de liberté augmente considérablement. Donc, et là, je crois qu'effectivement, lorsqu'on touche, y compris d'ailleurs à l'économie, lorsqu'on touche même à des aspects de biologie ou lorsqu'on touche donc aux sciences humaines, on a des systèmes d'une extraordinaire complexité avec une énorme quantité de degrés de liberté. Donc, une modélisation mathématique, au sens où je l'entends, on peut en envisager d'autres, il y en existe d'autres, au sens où je l'entends, me semble, moi, pas pour aujourd'hui. Bien entendu, ça ne doit pas empêcher les sciences humaines, avec leurs méthodes et leurs outils, d'avancer. Mais bon, les mathématiques ne peuvent pas intervenir, ou ne doivent pas intervenir obligatoirement sur tous les sujets, fort heureusement.
Monsieur, là au centre.
Oui. Parmi toutes les choses fondamentales que vous nous avez dites, il y en a une que je retiens et qui se pose constamment. Et sans vouloir prendre parti ou polémiquer, je vous demanderai simplement, qu'est-ce que vous pensez de Nothal ?
De ?
Nothal.
Je ne sais pas ce que c'est.
Ah, alors d'accord.
J'avoue mon ignorance.
Alors d'accord, c'était... comment dire, l'introduction de la notion d'échelle dans les idées de relativité en particulier.
Oui, alors ça c'est un domaine que je ne connais vraiment pas du tout. Je suis désolé, mais la physique est vaste. Hein.
Je regrette. Merci beaucoup.
Madame, sur la droite de
voilà.
La...
bonjour monsieur. Je suis biologiste, je déteste les mathématiques, mais je sais leur pouvoir, je sais leur génie. Malheureusement, vous avez dit tout à l'heure multidisciplinarité. Oui. Et en fait, quand vous dites multidisciplinarité, vous dites les mathématiques partout. En médecine, maintenant, c'est les polytechniciens qui font de la recherche. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un être qui souffre. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un flux sanguin. Là, vous avez parlé du flux sanguin, mais le flux sanguin n'obéit pas aux lois mathématiques. Ils obéissent au cœur. Voilà. Et déjà, le titre de votre sujet, c'était « Simulation ». Monsieur, je sais bien que vous n'êtes pas un simulateur, vous êtes un être très intelligent, beaucoup plus que moi. Vous êtes un être abstrait. Moi, je suis très concrète. Simuler, pour moi, ce n'est pas bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est les mathématiques aux mathématiques, l'ordinateur aux informaticiens, mais laissez les sciences humaines dont madame a parlé, laissez la biologie aux biologistes.
Quelques remarques, je ne vais évidemment pas polémiquer avec vous, madame, et je pense avoir donné des éléments de réponse en montrant bien que j'estimais toutes les sciences, et d'ailleurs y compris les sciences humaines. Le point n'est pas là. Quand je parle de multidisciplinarité, ne pas aller vers la multidisciplinarité serait une erreur, mais colossale. Colossal. Donc, ne m'en veuillez pas de ne pas être d'accord avec vous. Ça, c'est le premier point. Quand on parle de multidisciplinarité, on parle de plusieurs savoirs techniques de pointe combinés. Ensuite, le point qui est extrêmement important, et là, je vous remercie de me permettre de corriger si je n'ai l'impression, c'est de ne pas donner l'impression que les mathématiques envahissent tout, mais bien au contraire, essaie d'être au service de tout. J'en veux pour preuve deux exemples. Premier exemple, c'est le séquençage du génome humain. Donc, il y a une demande très forte des biologistes qui travaillent sur le génome humain, en génomique, comme on dit, et on voit effectivement poindre la nécessité d'introduire des méthodes mathématiques qui, pour l'instant, restent cantonnées à ce qu'on appelle la combinatoire et des statistiques. Deuxième exemple, directement lié à la médecine, puisque vous en parliez. Deuxième exemple, directement lié à la médecine. Pour des problèmes qui ont des gros problèmes cardiaques, il y a ce qu'on appelle des valves artificielles. Donc, il faut savoir que la Food and Drug Administration aux États-Unis requiert, pour l'habilitation de valves artificielles, requiert un dossier incorporant des simulations pour bien vérifier leur fonctionnement dans un certain nombre de situations d'écoulement sanguin. Donc, voilà pour des exemples concrets. Ce n'est pas polémique, ce sont des exemples, ce sont des faits que je donne qui indiquent ces aspects-là. D'autres questions, oui. Je ne veux pas monopoliser la parole, oui.
Une question ici, là. Allez-y, monsieur.
Pourriez-vous nous donner des informations sur un sujet assez précis, à savoir l'écoulement des eaux souterraines dans les sites où l'on creuse des puits et des galeries en vue d'un éventuel enfouissement des déchets nucléaires?
Oui. je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je sais néanmoins que des efforts tardifs, mais des efforts ont été mis en place depuis environ 6 ans. J'ai fait partie de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant où sont les modèles, où sont les simulations pour comprendre ce qui peut se passer lorsque des matières dangereuses traversent un certain nombre de protections et éventuellement atteignent des couches géologiques et peuvent être transportées dans ces couches géologiques. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a mondialement, enfin, et je trouve que c'est bien tardif, il y a mondialement un effort qui est fait pour essayer d'un peu mieux comprendre ces questions qui sont extraordinairement difficiles parce qu'on connaît mal la nature de ces couches. On n'a que des informations extrêmement indirectes de la constitution de ces couches. Donc en soi-même, reconstituer ce qu'il y a dans ces couches ou reconstituer les aspects aléatoires qu'il y a dans ces couches est un problème déjà scientifique redoutable. Mais enfin, tout ce que je peux dire, c'est que finalement, on s'y est mis à travailler sérieusement là-dessus. Mais je ne sais pas exactement où on en est. Donc je ne suis pas si vous me donnez un site ou des choses comme ça, je ne pourrais rien vous dire.
Monsieur, là.
Vous avez parlé de nombreuses applications des mathématiques dans différents domaines. Est-ce que l'inverse se produit? Autrement dit, est-ce qu'à partir de faits expérimentaux, dans la biologie ou dans la chimie ou la physique, est-ce qu'on arrive même à découvrir de nouvelles fonctions?
Oui, enfin, des nouvelles idées, certainement. Il ne faut absolument pas voir l'interaction des mathématiques et d'autres disciplines comme une relation en sens unique où les mathématiques détiendraient la science infuse et avec bienveillance donneraient des informations aux autres sciences. Ça va dans tous les sens. J'ai collaboré avec des physiciens, des économistes, et à travers des collaborations avec des physiciens, ça m'a donné des idées sur ce que je pouvais faire mathématiquement. Donc ça, c'est à mon modeste niveau. On a vu des grands, en physique théorique, il y a un immense physicien qui s'appelle Witten, qui se sert de sa compréhension profonde de la physique des particules pour inventer et cataloguer des structures mathématiques totalement abstraites. Donc ça va dans tous les sens. Les mathématiques ne sont pas réservées aux mathématiciens. Les mathématiques sont un outil. Les mathématiciens sont là pour le développer et s'en servir avec d'autres.
Les deux dernières questions, monsieur Lao.
Est-ce qu'il serait envisageable que les mathématiciens modifient les lois physiques, par exemple pour l'équation de Navier-Stokes, par exemple, si on arrive à montrer que la solution n'est pas unique ou que, je ne sais pas, s'il n'y a pas existence dans certains cas, est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas transformer ou simplement par les mathématiques découvrir de nouveaux termes qui apporteraient des solutions correspondantes?
Je veux dire, ça me paraît être un jeu dangereux parce que ce qui est fondamental là-dedans, c'est la réalité physique. Donc les mathématiciens peuvent donner un éclairage au modèle et dire, attendez, ce modèle ne correspond pas à la réalité physique. Ensuite, ça serait faire preuve de beaucoup d'arrogance que de dire qu'à partir de réflexions abstraites, on va deviner comment la réalité physique est correctement représentée. Par contre, qu'en échange, qu'il y ait une interaction entre mathématiciens et physiciens pour essayer de mieux comprendre ces questions-là, oui, et ça existe autour de... autour de la turbulence, c'est un domaine qui réunit allègrement des mathématiciens, des physiciens, des mécaniciens. Les frontières deviennent floues. Hein. De mettre des catégories telle personne est mathématicienne, telle personne est physicienne, où se place la frontière, on s'en moque.
Madame là-haut,
est-ce que vous pourriez développer un peu le concept de singularité et éventuellement celui de divergence, si c'est possible, en particulier dans leurs applications en physique?
Oui. Bien. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple, qui est l'exemple des équations de l'air compressible et qui est l'exemple d'une propagation d'un choc. Donc, on sait très bien que dans les gaz, il y a des ondes de choc. Bon, je suis obligé d'employer des mots. Et ces ondes de choc correspondent à des singularités mathématiques qui sont en fait des discontinuités de la solution. Donc, voilà un exemple. Un autre exemple un peu du même type, c'est ce qu'on appelle le phénomène des caustiques en optique. Donc, ce phénomène des caustiques correspond en termes d'équations en dérivée partielle à des discontinuités, des surfaces de discontinuité du gradient de la solution d'une équation qui s'appelle l'équation d'Aeconal ou l'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc c'est à travers des propriétés mathématiques que l'on voit des objets qui peuvent être des discontinuités, voire parfois des divergences. Là j'ai surtout illustré la notion de singularité. Si on veut parler de divergence, on peut avoir des phénomènes d'implosion en dynamique des gaz avec la croissance très brutale de la densité en un point. Ça serait plutôt une divergence. Ou des phénomènes de focalisation de laser, voilà une autre divergence qui se prend au sens mathématique. Voilà comment je peux essayer de répondre à cette question.